L'entretien du jour sur Radio Semnose, Fabrice Oriot.
Du 11 au 14 novembre prochain se tiendra à Annecy le synode régional de l'Église protestante unie de France, rassemblant un nombre important de délégués venant d'Auvergne-Rhône-Alpes, des différentes paroisses donc de cette église qui se situe sur notre territoire. Voilà l'occasion d'en savoir un peu plus, voire de découvrir le fonctionnement de cette union d'églises locales, autrement dit de paroisses, c'est ainsi que l'on peut s'exprimer sur ce propos. Et nous allons découvrir cela en compagnie de Nicole Delcroix, membre de l'Église protestante unie ici à Annecy. Nicole Delcroix, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Et merci d'être aujourd'hui au micro de Radio Semnose pour nous éclairer par rapport à ce sujet que je viens d'introduire. Plusieurs d'entre nous sont certainement déjà passés devant le temple réformé situé tout près de la gare d'Annecy et ont peut-être aussi remarqué un changement d'appellation depuis 8 ans déjà, puisque l'Église réformée de France est devenue en 2013 l'Église protestante unie de France. Alors, vous allez nous expliquer cela tout d'abord. Pourquoi cette appellation, Nicole Delcroix ?
Alors, Église protestante unie, parce qu'elle est issue de l'union de deux églises, l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France. Donc, après un certain nombre d'années de préparation, ces deux églises ont décidé de s'unir, non pas de fusionner, mais de s'unir au sein de l'Église protestante unie.
Ce qui fait que chacun garde son identité, j'imagine, mais fonctionne ensemble.
Exactement.
Dans quelques jours, vous allez vivre un synode régional à Annecy. Alors, je vais vous inviter, là encore, à nous faire une petite explication. Qu'est-ce qu'un synode ? Quelles sont les instances ou les personnes qui vont être présentes aussi pour l'occasion ?
Alors, nous avons dans l'Église protestante unie deux types de synodes, des synodes régionaux et des synodes nationaux. Ils se réunissent annuellement l'un et l'autre. Le synode régional est constitué d'environ 180 délégués qui viennent des différentes églises locales ou paroisses, comme vous avez dit tout à l'heure. Et chaque église locale envoie deux délégués qui sont le pasteur et un laïc. Si l'église se trouve sans pasteur cette année-là, ce sont deux laïcs qui représentent l'Église.
Donc qui permettent à l'Église de transmettre la vie locale et de participer aux discussions qui vont donner des orientations.
Ouais. De participer aux discussions, et tous ces délégués ont une voix délibérative, puisque toutes les décisions dans l'Église protestante se font par vote.
Alors l'Église protestante unie de France bénéficie d'un double fonctionnement qui est à la fois presbytéral et donc synodal. Qu'est-ce que cela représente dans le fonctionnement global ?
Alors d'abord, avant de définir ce qui est le presbytéral et le synodal, je voudrais rappeler deux principes qui sont des principes qui existent depuis la Réforme. Pourquoi est-ce qu'on a cette double gouvernance ? Parce qu'on est attaché d'abord à un système collégial, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises par un conseil et jamais par une seule personne. Donc, elles font l'objet d'un vote au sein d'un conseil presbytéral ou au cours d'un synode.
Alors, on peut rappeler peut-être que la réforme, ça nous ramène quand même longtemps en arrière.
Voilà, la réforme nous ramène au XVIe siècle. Et donc, ces principes sont des principes qui ont été novateurs et qui ont été donc à la base du système presbytéro-synodal dès le mouvement de la réforme. Le deuxième principe, c'est la participation, si possible à égalité, des laïcs et des pasteurs, et dans toutes les instances de décision. Alors, je voudrais vous lire juste une petite déclaration de Martin Luther, qui est un des grands réformateurs, à ce propos. Martin Luther parle de ce qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants, c'est-à-dire le fait qu'en Église, chacun est prêtre. Et dans sa lettre à la noblesse chrétienne, qui date de 1520, Luther affirme que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'État ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la fonction. Nous avons un même baptême, un même évangile, une même foi, et nous sommes tous également chrétiens, car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui seuls forment l'État ecclésiastique et le peuple chrétien. Et par conséquent, cette égalité, en quelque sorte, par le baptême, par la scène, par la foi, eh bien, fait que chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs, d'ailleurs, ce sont aussi des devoirs, au sein de l'Église.
Donc que l'on soit pasteur ou membre laïque, on est au même niveau, en quelque sorte.
On est au même niveau. Alors évidemment, les pasteurs ont une formation particulière, ils font l'objet d'une, on va dire, une sorte de contrôle pour savoir s'ils ont vraiment une vocation et s'ils ont un niveau d'études requis et de connaissances nécessaires donc à ce ministère particulier qui est le ministère pastoral. Je rappelle à ce propos que les pasteurs ont tous un master et donc ensuite passent devant une commission des ministères.
Un master en théologie.
Un master en théologie, bien sûr.
Alors, Nicole Delcroix, le lien entre presbytéral et synodal, comment ça se passe?
Alors, ce qu'on appelle presbytéral, ça vient donc du conseil presbytéral, qui est l'instance, en quelque sorte, d'une église locale. Une église locale, elle fonctionne finalement un peu comme une association. C'est-à-dire, annuellement, elle a une assemblée générale, et cette assemblée générale élit un certain nombre de conseillers presbytéraux. Par exemple, à Annecy, les conseillers presbytéraux sont au nombre de 14 actuellement. Le pasteur, s'il y en a un, est membre de droit. Et c'est ce conseil presbytéral qui gère l'Église. Mais qui gère l'Église à l'intérieur d'un cadre. Chaque Église a beaucoup d'autonomie, mais en même temps, elle doit se situer à l'intérieur d'un cadre qui est le même pour toutes les Églises locales de France. Et ce cadre, c'est une constitution qui est rédigée et décidée, votée au moment des synodes.
Donc, au-delà de l'église locale, où l'on est dans un fonctionnement presbytéral, on passe ensuite à un fonctionnement synodal.
Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque église locale envoie deux délégués au synode régional. Et le synode régional, à son tour, va élire, puisqu'on est toujours dans un principe d'élection, va élire à son tour des représentants au synode national. Et le synode national élira en son sein un conseil national qui aura un président, une présidente actuellement. Et cette présidente, elle n'a pas une voix prépondérante, mais elle est la représentante de notre Église. Ceci pour 4 ans, puisque tous les mandats sont des mandats de 4 ans.
On va se pencher plus particulièrement sur le synode régional. Qu'est-ce qui se joue lors de ce rendez-vous que vous allez avoir au mois de novembre?
Un synode régional, il a en quelque sorte 2 activités principales. Une des activités, c'est donc de voir ce qui, au cours de l'année écoulée, s'est passé dans la région. Il y a un rapport qui est établi par le Conseil régional. Ce rapport va être présenté, va être discuté. De toute façon, tous les délégués reçoivent tous les documents avant l'ouverture du synode. Ils sont bien entendu appelés à les lire attentivement. Et donc, on a cet examen, en quelque sorte, de la vie locale de notre région. On a aussi un examen et un vote de décisions financières qui sont importantes, puisque là encore, on fonctionne de manière complètement autonome. Ce sont les églises locales qui, par leur contribution, permettent de salarier les pasteurs. Il faut que ces contributions soient réparties de manière juste, acceptées aussi par l'ensemble des églises locales et par le synode.
Il me semble qu'il y a une dimension de solidarité d'ailleurs.
Il y a une dimension de solidarité parce que certaines églises n'ont pas les moyens, par leur contribution, de rétribuer un pasteur. Donc, elles comptent sur la solidarité d'autres églises plus à l'aise. Et en effet, le principe de solidarité et de responsabilité sont 2 principes fondamentaux de la vie de l'Église.
Alors, il y a un thème qui est donné à chaque synode. Ce thème, en général, il est sur une année, mais parfois, ça peut dépasser un petit peu ce cadre. Ça sera probablement, d'ailleurs, le cas du thème que vous avez choisi pour cette année, mission de l'Église et ministère. Alors, là encore, on va avoir besoin d'une petite traduction, si je puis me permettre, en langage courant. Pourquoi ce thème?
Alors, pourquoi ce thème? Parce que on a bien conscience qu'on est dans un monde en très large mutation et qui nécessite que l'Église se réadapte à ce monde. Il ne s'agit pas de vivre dans une sorte d'entre-soi comme on a pu le faire pendant des siècles, mais bien d'être présent dans un monde qui est de plus en plus sécularisé. La religion n'est plus le cadre dans lequel s'inscrivaient les activités humaines. Donc comment être audible dans ce monde où la sécularisation est de plus en plus présente? J'en donne pour exemple tous les débats qui ont lieu autour de la laïcité, avec même la proposition actuelle que, bon, personnellement, je réprouve, qui est de rajouter au triptyque républicain liberté, égalité, fraternité, le mot laïcité. La laïcité, c'est un cadre, c'est un principe, mais ce n'est pas une valeur au départ. Et là, on en ferait véritablement une valeur.
Et vous considérez que la laïcité est déjà intégrée aux 3 premiers termes qui sont employés?
Oui, et puis qu'elle bénéficie déjà d'un cadre juridique. Donc ce cadre juridique peut être aménagé, mais ce n'est pas une valeur en soi, la laïcité. Et par ailleurs, donc on parlait de sécularisation de notre monde, on pourrait dire aussi qu'on vit dans un monde de plus en plus spécialisé. La société, elle est de plus en plus éclatée en réseaux. qui ne se rencontrent pas nécessairement. Les connaissances matérielles qui sont quelquefois dans certains domaines qui se sont accrues de manière exponentielle font qu'on est dans une société de spécialistes, spécialistes en sciences, spécialistes en technologie, et qui deviennent d'une certaine manière les dépositaires d'une sorte de foi profane. Là encore, quelle place peut prendre la religion à l'intérieur de cet éclatement de la société ?
Nicole Delcroix, là, on parle de l'Église protestante unie de France, et vous, quand vous parlez de l'Église, à l'instant, de la religion, vous parlez des chrétiens ou de toutes les religions qui existent sur cette planète ? Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Je parle d'abord pour l'Église protestante unie de France, mais le mot « Église » est un mot large qui n'a pas d'ailleurs la même acception pour tout le monde. Alors, pour les protestants, je le précise, l'Église, ce sont d'abord des personnes, ce ne sont pas des bâtiments. Ce n'est pas une institution en premier, ce sont des personnes, puisque nous disons que là où deux ou trois personnes se réunissent au nom de Jésus-Christ, il y a Église. Cela fait que, pour nous, ce sont les personnes qui sont en première ligne, hein, dans le cadre de l'Église.
Donc pas ceux qui sont tout en haut, mais ceux qui sont au voilà. niveau de tout le monde, si je comprends bien.
Mais tout en haut n'existe pas chez nous. Par exemple, j'ai parlé des votes, tout le monde a une voix égale. Mm-hmm. Il n'y a pas de voix prépondérante dans l'Église protestante unie.
Alors, une dernière information, parce que nous arrivons déjà à la fin de notre entretien, Nicole Delcroix, à l'Église protestante unie ici à Annecy, vous êtes actuellement en vacances pastorales. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique ?
Eh bien, la vacance pastorale ne signifie pas que le pasteur prend des vacances, mais signifie qu'une église locale se trouve sans pasteur. Alors on voit réapparaître le principe de solidarité ici, puisqu'il a été préconisé au sein d'un synode national qui a eu lieu il y a une bonne dizaine d'années, que quand un pasteur quittait une église, et il doit quitter l'église au bout de deux mandats, les mandats pastoraux ne sont pas de 4 ans, ils sont de 6 ans, donc au bout de 12 ans, un pasteur donc doit quitter l'église où il se trouve et postuler pour un autre poste, et à ce moment-là, le conseil presbytéral de cette église locale est tenu de voter une année de vacances pastorales. Ça peut être une année, mais ça peut être davantage aussi. C'est-à-dire que l'Église s'engage à rester sans pasteur et à assurer et à gérer elle-même et ses cultes et ses diverses activités.
Et en plus, cela ne vous empêche pas d'accueillir donc le synode régional qui aura lieu, je le rappelle, du 11 au 14 novembre prochain à Annecy, que vous organisez par conséquent en grande partie.
Que nous organisons en partie, bon, en lien avec la région, bien entendu.
Voilà, donc vous pouvez, si vous êtes intéressé par le sujet, aller chercher plus d'informations à ce propos. Pourquoi pas rencontrer Nicole Delcroix, prendre contact avec elle. Elle saura certainement vous en dire encore bien plus. Merci en tout cas pour déjà ces éléments, Nicole Delcroix, qui font réfléchir à l'organisation de toute une série d'éléments, et en particulier de l'Église protestante unie de France. Merci beaucoup pour cette présentation.
Eh bien, merci beaucoup de votre invitation.